présentement, chaque fois que je lis un article dans les quotidiens, on va avoir le mot genre dans le titre, on va parler de sexe dans le texte, on va revenir avec le mot genre. Tout est mélangé.
C'est ça.
C'est une stratégie parce que on
Vous
veut.
Vous pensez que c'est une stratégie ou
absolument.
C'est juste que tout le monde est mêlé?
Ça dépend
qui écrit le texte aussi,
j'imagine. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a une volonté de la part des socio-activistes de faire disparaître le sexe.
Mm-hmm.
C'est une volonté. Alors, de sorte que tout ce qui est genre devient... tout ce qui est sexe devient genre.
Mm-hmm. François Chapleau est professeur émérite au département de biologie de l'Université d'Ottawa. Dans sa carrière, il s'est intéressé particulièrement au monde des poissons, mais ce n'est pas de ça qu'on a parlé aujourd'hui. Depuis quelques années, il s'oppose à l'identité de genre. En tant que biologiste, je trouvais ça intéressant de vraiment mieux comprendre c'est quoi la différence entre un homme, une femme, le genre, le sexe, et c'est de ça qu'on a parlé ensemble aujourd'hui. On est déjà dans le creux du sujet. Je vais vous faire répéter, c'est sûr.
C'est pas grave.
Il y a plein de choses que vous venez de me dire, mais premièrement, vous êtes professeur émérite à l'Université d'Ottawa en biologie.
Oui.
Jamais j'aurais cru qu'on s'assoirait un jour pour discuter de qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme, mais il semble qu'on soit rendu là. Et là, il y a une ambiguïté totale par rapport à ce qui détermine vraiment ce qui fait de vous un homme et de moi une femme.
Mm-hmm.
Et vous avez décidé de prendre la parole publique. Selon ce que je comprends, la première fois, ça a été en 2021, dans un mémoire que vous avez coécrit avec votre femme, Marie-Claude Girard.
Conjointe, oui.
Qui est retraitée de la Commission canadienne des droits de la personne.
Oui.
Vous avez pris la parole à ce moment-là, c'était le projet de loi 2,
oui.
Qui était, je vais le nommer, la loi sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation,
mm-hmm.
et la modification du code civil en matière de droit de la personnalité et d'état civil. Bon, ça sonne très compliqué. Pourquoi cette fois-là avez-vous décidé de prendre la parole publiquement? Qu'est-ce qui vous dérangeait de ce projet de loi-là en particulier?
En fait, ça vient d'un article qui a été écrit dans Le Devoir qui critiquait le projet de loi numéro 2. Qui était signé par 220 universitaires et étudiants universitaires, dans laquelle on disait que le projet de loi dérapait, je ne vais pas rentrer dans le détail du projet de loi, mais essentiellement que d'assumer que le sexe était binaire, ça ne correspondait pas à la réalité scientifique. Ça indiquait que le privilège de l'autodétermination du sexe était inattaquable. En fait, il y avait dans cette lettre-là tellement de choses qui avaient aucune base scientifique, aucune réalité, mais le mot scientifique revenait comme 20 fois. Et ça m'a insulté. C'était venu me chercher. Alors, j'avais écrit une réponse dans le courrier au lecteur que j'avais mis sur... que j'ai finalement... qui a été publié et puis que j'ai mis sur les réseaux sociaux. Et la réaction des gens, ça a été « Wow! » Première fois qu'un biologiste dit quelque chose dans ce dossier-là. Deuxièmement, on m'a dit de faire attention parce que tu vas te faire annuler, tu vas perdre ta job. Et alors, on m'a... mais en même temps, il y a plusieurs personnes qui ont dit « Enfin! » Quelqu'un parle de ça, parce que je disais, voyez-vous, la possibilité dans la conclusion de ma note, c'était que j'expliquais le sexe, mâle, femelle, puis que les droits des femmes sont fondés sur le sexe, puis la qualité d'enfanter, c'est une qualité qui est éminemment liée aux femmes, mais à personne d'autre. Pourquoi est-ce qu'on veut leur enlever ça? Alors donc, puis après ça, bien évidemment, avec ma conjointe Marie-Claude Girard, qui est très au courant de toutes les lois, chartes et tout ça, là, elle dit, bien, on peut s'impliquer dans ce dossier-là. Alors, on a écrit un mémoire où... mais on n'était pas les seuls à le faire. Il y a eu des philosophes, il y a eu d'autres personnes qui se sont impliquées dans le dossier puis qui ont soumis des mémoires. Malheureusement, lors de la commission parlementaire, on n'a pas invité aucun groupe qui était opposé à cette vision-là, qui était en faveur de la vision binaire, qui est allée présenter à la commission parlementaire. Il y a eu un choix qui a été fait, de sorte que le projet de loi a passé.
Oh, wow.
Puis, depuis ce temps-là, on se retrouve avec un article dans le Code civil qui indique que la mention « sexe » inclut soit le sexe de la personne, soit son identité de genre. Alors, essentiellement, ce qu'on venait de faire, c'était de légaliser une erreur, une fausseté scientifique.
Total.
Oui, on a créé. Donc, ça voulait dire maintenant que n'importe qui pouvait, selon son ressenti, décider d'être une femme.
C'est ça, c'est qu'on n'est plus dans l'observation réelle des faits, on est juste dans le ressenti.
C'est ça. Alors l'idée, c'est que là, on a amalgamé un concept biologique avec un concept sociale.
Mm-hmm.
Et ce faisant, malheureusement, ce que ça implique, c'est que le concept biologique disparaît.
Mm-hmm.
Sa signification disparaît. Et on se retrouve avec les situations qu'on a actuellement. Et ces situations-là, ben, en général, sont, font en sorte qu'on invisibilise les femmes, la réalité mm-hmm. biologique des femmes, avec des conséquences. Et ce que je reproche un peu à tout cet imbroglio-là qu'on a créé, pour moi, c'est de la mauvaise gouvernance. Je veux dire,
politique.
Oui, c'est ça. On est gouverné, puis là, tout à coup, on se fait dire que maintenant, être une femme, c'est lié à un ressenti.
Mm-hmm. C'est particulièrement les femmes. On ressent, en tout cas, moi, en tant que femme, c'est sûr, c'est ma perspective, mais je ressens que c'est beaucoup les femmes qui sont pénalisées là-dedans. Est-ce que vous partagez cette vision-là?
Absolument, absolument. En ce sens que, OK, si on va d'un point de vue biologique,
mm-hmm.
Si on définit le sexe, on définit le sexe selon la notion binaire, là, on a deux catégories. On a une catégorie homme, catégorie femme, qui sont définies clairement par la morphologie, l'anatomie, qui va leur permettre de produire soit des gros gamètes, des ovaires ovocytes, soit des petits gamètes de sperme. Bon, tout ça, là, c'est la réalité. Alors, quand on change cette... Là, j'ai oublié
Pourquoi les femmes, c'est elles qui sont pénalisées?
Oui, d'accord. Exactement. Alors donc, cette réalité-là, qui est une réalité qu'on observe tous les jours, mais ça fait comme 100 000 ans que ça existe. Ça fait, en fait, toute l'histoire de l'humanité, on dit que l'espèce humaine a près de 300 000 ans, ben, nos corps ont évolué en fonction de nos rôles reproductifs. Alors, chez les hommes, ben, ça a pris une tournure qui fait en sorte qu'on a une disparité au niveau, par exemple, de la force physique, de l'agressivité, de la musculature, au niveau de la capacité pulmonaire. Chez les femmes, ben, l'évolution s'est faite dans un autre sens, au niveau de l'enfantement, au niveau ben, il y a eu d'autres priorités au niveau, si on veut, morphologique, qui a fait mm-hmm. Ce qui fait en sorte qu'on a des disparités physiques, qui fait que l'homme est toujours plus fort, plus agressif, plus... alors, il y a cette disparité-là rend les femmes vulnérables.
Mm-hmm.
Et quand on regarde en ce moment les problématiques de ne pas reconnaître le sexe, ben, c'est cette vulnérabilité-là qui apparaît.
Mm-hmm.
Alors, par exemple, dans les sports olympiques, ou dans les sports, parce que là, on parle beaucoup de sports olympiques, et j'espère que ça va se répandre dans tous les sports
oui.
de compétition. Ben, cette disparité-là physique se transforme en un avantage masculin.
Mais c'est incroyable même qu'on doive avoir le débat là-dessus. Moi, ça me jette à terre.
Oui, effectivement, c'est incroyable, mais c'est parce que les opposants, qui sont très puissants dans le sens de... qui ont une présence importante, puis qui ont trouvé toutes les clés de sympathie possible dans la société, les ont exploitées au bout.
Mm-hmm.
Il y a beaucoup de ces personnes-là vont dire, par exemple, que non, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. C'est juste que pour le sport, ben, c'est parce que les femmes ne s'entraînent pas assez.
Ouais.
Pour tout, il y a ce... Alors, donc, c'est vraiment un conflit, si on veut, entre une vision sociale de l'humain puis la vision biologique.
Mm-hmm.
Sauf que la vision biologique, on ne peut pas changer. Elle
mm-hmm.
est là.
Mm-hmm.
Elle est là, c'est un fait.
Est immuable.
Je veux dire, elle était là, le sexe, la reproduction sexuée a évolué il y a à peu près 1 milliard d'années. Quand notre espèce va être disparue, les autres espèces qui vont... À moins que notre espèce fasse disparaître toutes les autres espèces, là, ça, c'est une autre histoire.
Ouais, ouais.
Mais... le sexe va être encore là.
Mm-hmm.
On n'a pas de contrôle. Notre volonté ne peut pas agir sur cette réalité-là. Alors donc, malheureusement, c'est un des concepts les plus difficiles quand j'ai à expliquer le sexe binaire, ben, les gens disent « oui, mais ça, c'est ton avis ».
Oui, c'est ça, comme si ça devenait juste des opinions.
Bien, c'est pas une opinion, c'est un fait biologique.
Mais vous avez mentionné tantôt dans ce projet de loi-là, vous avez dit, bon, le genre est maintenant reconnu comme... L'identité de genre est reconnue comme le sexe. C'est comme si on a créé une confusion à partir, finalement, d'une mauvaise traduction de l'anglais, qui est « gender » en anglais. Je sais pas d'où ça vient, finalement, à l'origine. Mais pouvez-vous expliquer la différence entre le sexe puis le genre en...
OK.
En français.
Alors, donc, d'un point de vue scientifique, là, je vais te donner
aussi...
Parce qu'effectivement, il y a un problème linguistique.
Mm-hmm.
Souvent, en anglais, on va parler... Quand on parle de sexe, on parle de gender, parce mm-hmm. que la tradition anglaise veut qu'on ne parle pas de sexe de façon explicite comme ça. Alors, on a toujours utilisé gender. Puis, alors que nous, on est un petit peu moins... On a vraiment... Ben, les activistes, moi je les appelle des socio-activistes, dans le sens que c'est vraiment de la sociologie.
Mm-hmm.
Puis en ce sens que on peut pas, je pourrais parler de transactivisme, mais j'aime mieux le terme sociaux, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas trans, qui sont des activistes dans ce chose-là. Alors donc, c'est... j'ai perdu le fil.
Attendez que je vous reparte. C'était la différence entre le genre puis le sexe.
Oui, d'accord. Alors donc, on a le sexe, on a le genre, on a cette capacité de choisir nos personnalités, de choisir, de s'identifier à ce qu'on veut. Ça, c'est plus le genre. C'est un sentiment profond d'avoir un genre, je ne dirais pas ça, mais je dirais une personnalité, d'avoir une orientation sexuelle. On a c'est cette réalité-là. Tout ça, ça a été encapsulé dans le mot genre, qui est un des termes les plus confus qui peut exister.
Mm-hmm.
Puis du côté de l'autre côté, on a le sexe. Le sexe qui est une réalité binaire, invariable. Alors donc, on n'a pas besoin de les mélanger. Mais présentement, à chaque fois que je lis un article dans des quotidiens, on va avoir le mot genre dans le titre, on va parler de sexe dans le texte, on va revenir avec le mot genre. Tout est mélangé.
C'est ça.
C'est une stratégie parce que on
Vous
veut...
Vous pensez que c'est une stratégie ou
absolument.
C'est juste que tout le monde est mêlé?
Ça dépend
qui écrit le texte aussi, j'imagine.
Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a une volonté de la part des socio-activistes de faire disparaître le sexe.
Mm-hmm.
C'est une volonté. Alors, de sorte que tout ce qui est genre devient... tout ce qui est sexe devient genre.
Mm-hmm.
Là, on le voit à l'école.
Donc, on se fait assigner un sexe à la naissance, selon eux. Donc, c'est plus une constatation de ce qu'on voit.
Effectivement. À la naissance, c'est le médecin qui décide du sexe,
c'est
selon
ça.
Les critères sociaux.
Dans un acte de violence épouvantable.
C'est une construction sociale de mettre une étiquette garçon-fille. C'est-à-dire que ça ne respecte pas la réalité du sexe. Et quelqu'un a décidé, parce qu'on a un système social qui a décidé qu'il y avait deux étiquettes, bien là, on est mâle et femelle. C'est ça. Et c'est la définition du sexe, selon ces socio-activistes-là, se situe là.
Je porte présentement au poignet le bracelet de performance CM2, un produit auquel je me suis affiliée cette année et que j'affectionne particulièrement pour les résultats concrets que j'observe et que j'observe aussi dans votre vie parce que vous me partagez vos témoignages. C'est un champ électromagnétique pulsé qui permet de lutter contre les douleurs chroniques, aider à se remettre quand vous faites un entraînement difficile, qui permet finalement une meilleure oxygénation du sang, meilleure élimination des toxines, donc qui me soutient beaucoup dans mon énergie. Et là, j'ai pensé vous parler d'une combinaison gagnante parce que j'ai fait un sondage auprès de ma communauté et ceux qui ont acheté le bracelet voulaient vraiment moins de douleurs et moins de stress, un meilleur sommeil. Et ça travaille merveilleusement bien avec le noni. Connaissez-vous le noni? C'est un super aliment, le noni de Tahiti. Et il y a plein d'études qui ont été faites. Je vous invite à faire vos recherches. Ne prenez pas ma parole pour la sainte vérité. Vous pouvez vraiment aller vérifier. C'est un produit, en fait, un super aliment qui lutte contre le stress oxydatif. C'est un antioxydant puissant et ça travaille magnifiquement bien avec le bracelet de performance. Il est présentement en combo dans ma boutique, bracelet Noni à 15% de rabais.
C'est-tu là?
Moi, ce qui m'impressionne, en fait, c'est la vitesse à laquelle c'est rentré dans notre société puis surtout dans nos systèmes.
Oui.
Les textes des gouvernements ou du ministère de l'Éducation, ce qui est enseigné à nos enfants, c'est maintenant, mais complètement, ça absorbait ça comme une éponge. Puis là, on regarde, par exemple, le programme du CCQ, je pense que vous connaissez bien, dans la portion d'éducation à la sexualité du cours de citoyenneté et culture québécoise, où finalement, on retrouve presque plus le mot femme que...
Non.
Fille-garçon. Ça ne vient pas de vous inventer pas ça, c'est pas un senti. Vous avez vraiment regardé...
J'étais voir, puis c'était... en fait, pour le mot femme, c'est une fois au niveau
dans
primaire qu'on en a ça dans le programme CCQ. Dans le programme CCQ, là. Alors, donc, une fois, dans le... Puis, je ne me souviens pas des autres, mais c'est très, très peu. On parle jamais de filles, de garçons.
On parle d'élèves, de personnes.
On parle de personnes. Ça, les personnes, c'est des centaines de fois que je l'ai noté. Alors, on évite de parler de sexe.
Mm-hmm.
On évite d'en parler aux enfants aussi, parce qu'on veut absolument minimiser le rôle du sexe dans la personnalité.
Mm-hmm. Ça paraît tellement gros que vous dites qu'on retrouve le mot femme une seule fois dans tout le programme du primaire que ça peut pas, selon moi, être un hasard. C'est une action. Il y a une volonté derrière ça d'effacer la femme et peut-être les hommes aussi, parce que je suis sûre qu'ils sont contre le mot homme, il doit pas revenir bien souvent.
Non, c'est la même chose.
C'est ça, c'est la même chose. Ouais. C'est vraiment l'effacement de nos rôles par rapport à notre biologie. Vous avez parlé tantôt, on a survolé les dangers qui viennent de ça. Tu sais, je pense à tous les combats que nos mères ou nos grands-mères ont gagné, qui étaient basées sur le sexe, justement, d'être protégées, parce que oui, il y a les viols qui viennent d'une très forte majorité des hommes sur les femmes, mais on prend pas ça nulle part. Maintenant, il y a les prisons qui acceptent des hommes qui s'identifient comme femmes, qui vont être dans des prisons pour femmes. Puis, bon, moi, j'ai beaucoup dénoncé ça. Puis à chaque fois que je le fais, j'ai des gens qui viennent me dire « Ouais, mais c'est vraiment non, c'est des exceptions, c'est hyper rare. » Mais je comprends pas pourquoi les exceptions qui se retrouvent en danger par cette idéologie-là ont pas de valeur, mais ça reste quand même des exceptions dans la société des intersexes puis des gens qui sont en dysphorie de genre, mais eux, ils méritent vraiment d'être mis sur un plateau puis qu'on change complètement le monde autour d'eux. C'est cette espèce de double discours que je comprends pas. Hein.
Oui, en fait, le discours a été accepté sans beaucoup de réflexion. Okay. Honnêtement, en fait, ça m'a toujours impressionné de voir que, par exemple, le programme de CCQ a été mis en place par des sociologues, mais il n'y a pas de scientifiques là-dedans. Alors donc, okay. C'est
aucun
une chose.
Scientifique.
Puis il y a eu un contexte également qui a favorisé l'implantation de cette idéologie-là, à mon avis. C'est que ça fait déjà 30 ans qu'on parle que plus que deux sexes.
Okay.
Je me souviens à l'époque, il y avait eu une étude, d'ailleurs, elle est souvent citée, d'une scientifique là, qui avait dit qu'il y avait cinq sexes. Alors, puis qui avait développé à partir des personnes intersexes, que pourquoi il y avait cinq sexes. Très rapidement, c'est devenu plus de sexes, mais finalement, aujourd'hui, c'est une infinité de sexes.
Mm-hmm.
Alors, donc, tout ça, mais ça s'est implanté dans le tissu social par cette. Par une méthode indirecte, je dirais, pas pour sa valeur. Sa valeur, essentiellement, c'était de l'inclusion. C'était l'objectif d'inclusion. On a eu une
la tolérance.
Phase, surtout après l'incident Floyd, là, où là, il fallait absolument qu'on inclue tout le monde. Là, c'était tout. Et c'était un signe d'oppression. Il fallait se débarrasser de ces pouvoir-là d'oppresseur opprimé. On a arrêté de voir les liens sociétaires comme étant quelque chose qui était... C'était toute une question de pouvoir.
Mm-hmm.
Alors donc, on a poussé très fort là-dessus. Et les socio-activistes ont misé là-dessus pour implanter cette idéologie-là. Et la véritable raison, c'était que c'était considéré comme étant... de l'oppression que de considérer le sexe binaire, que de considérer les hommes. Le patriarcat, c'était une forme d'oppression, l'oppression contre les homosexuels, l'oppression contre les personnes qui avaient une personnalité un peu marginale, donc une identité de genre qui était en dehors des normes. Alors, c'était ça le véritable objectif, c'était surtout de s'attaquer aux normes de la société.
Mm-hmm.
Et je pense qu'on a un petit peu instrumentalisé les personnes intersexes puis les personnes trans dans ce processus-là. Alors, c'est pour ça que ma sympathie pour les personnes trans est très grande.
Mm-hmm.
Non seulement ils vivent une vie qui n'est pas simple, qui est compliquée, mais ils sont instrumentalisés par des personnes qui, elles, n'ont pas vraiment à cœur ces personnes-là, mais ont à cœur une idéologie qui s'attaque aux normes.
Vous expliquer comment ils sont instrumentalisés dans le concret, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont être scandalisés de vous entendre dire ça. Comment trouvez-vous qu'ils sont instrumentalisés?
Okay. On va parler de personnes intersexes en premier lieu.
Oui, c'est intéressant parce que c'est l'argument qui est toujours rebrandi pour prouver que que le genre est un spectre.
C'est ça. Si vous regardez la licorne du genre à l'école qui présente, il y a des intersexes.
Ça existe, la licorne du genre, pour ceux qui ne connaissent pas ça.
Oui, alors donc, c'est une chose, c'est un outil extra... un outil de propagande, c'est pas un outil d'éducation, en tout cas, si on pourrait revenir. Je prends les personnes intersexes. Pourquoi est-ce qu'on les a instrumentalisées? Alors, la réponse est relativement simple. Les personnes intersexes ont des anomalies du développement sexuel. Bon, il y a plusieurs termes. Les socio-activistes préfèrent le terme variation parce qu'ils veulent considérer que ces variations-là ne sont pas nécessairement négatives, dans le sens qu'il faut les protéger. Parce que c'est important pour l'idéologie, c'est de multiplier les sexes. Alors, donc, on veut. Alors que les anomalies du développement sexuel, il y en a une quarantaine, qui sont parfois très sévères sur au niveau de la santé, parfois plus bénignes. Alors, on a dit que ces personnes-là étaient hors de la binarité. Mais, essentiellement, les personnes intersexes, peu importe les maladies, les anomalies, je devrais dire, ben, si elles sont fertiles, elles vont produire soit des gamètes mâles, soit des gamètes femelles. Mm-hmm. Donc, elles s'inscrivent dans la binarité. Variabilité de chacun des sexes.
Mm-hmm.
Alors, mais c'est évident, ça. Je veux dire, alors, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a dit non. Il montre tellement de variabilité là, que c'est sûrement à l'extérieur de la binarité. Alors, donc, on les considère comme... C'est pour ça qu'on a une case sur la licorne de genre, même dans toutes les partenaires d'enseignement, ceux qui viennent dans les écoles expliquer la diversité sexuelle et tout. On va toujours avoir les intersexes comme étant hors de la binarité. Très important de les indiquer comme ça. Alors, vous voyez comment on peut instrumentaliser des personnes qui, dans le fond, vivent une situation qui peut être médicale, mais qui vit une situation atypique, qui sont des mâles et des femelles.
Mm-hmm.
Alors, la deuxième chose qu'on a fait avec eux, c'est de dire qu'il y en avait, que c'était 1,7% de la population mondiale. On a établi ce chiffre-là en regardant toutes les maladies, toutes les anomalies, je m'excuse encore une fois, toutes les anomalies, toutes les variétés de ce développement sexuel. On s'est dit, ben voilà, ils sont atypiques, ces gens-là. Mais de fait, c'est 1,7%, c'est les observations qu'on fait à la naissance des organes sexuels. Donc, ils seraient ambigus ou il y aurait une erreur. Mais quand ce chiffre-là est sorti de 1,7%, et il est répété tout le temps. Mm-hmm. On parle de 1,7, 2%.
Ouais.
Mais si on examine vraiment chacune des anomalies, la plupart ont des organes sexuels externes qui sont associés avec les gamètes qu'ils vont produire.
Mm-hmm.
Et de sorte que le chiffre descend à 0,02% de cas qui sont des erreurs d'identification ou dont le sexe est vraiment ambigu. Okay. L'idée ici de comprendre que sexe est binaire, ça ne veut pas dire que tout le monde est facilement classifiable à l'intérieur des deux sexes.
Mm-hmm.
Il y a des cas terribles d'anomalies du développement sexuel où il n'y a pas de gonades qui sont formées, où mm-hmm. c'est même très difficile d'identifier à partir d'autres organes sexuels,
mm-hmm.
d'autres organes, si c'est... Mais c'est vraiment des anomalies, des exceptions.
Oui, je comprends.
Alors, on a bâti une idéologie sur des exceptions.
Mm-hmm.
Puis on a essayé je vais prendre un terme anglais, booster le nombre pour
ouais.
que ça soit un enjeu social encore plus important. Alors, c'est un exemple.
Oui, c'est un bon exemple. Le chiffre 1,7, finalement, si on s'y attarde comme il faut, il explose.
Absolument. Il n'y a aucune... Je veux dire, un médecin va pouvoir... on peut avoir un syndrome particulier, là, Klinefelter, qui est un syndrome très commun, qui est une anomalie du développement sexuel. On va reconnaître les organes sexuels. Ils ne sont peut-être mm-hmm. pas super bien développés, mais c'est un garçon.
Oui, je comprends.
Une erreur qui peut être faite dans le 0,2%, dans le 0,02%, ben, il y a, par exemple, les boxeurs
mais c'est de ça, Iman Khelif, c'est intéressant d'en parler parce qu'elle fait partie de cette ambiguïté-là.
Absolument, parce que cette personne-là a essentiellement tous les attraits d'un mâle, sauf pour les organes externes. Alors, c'est-à-dire
comment on l'a su, ça, finalement? Ils ont publié un rapport?
Évidemment, il a toujours nié.
Oui.
Il y a eu des rapports mais je veux dire, les sources des rapports ont... Je me garde une petite gêne,
ouais,
là.
Ouais.
Je dirais qu'on est sûr, pour certaines personnes, c'est 100%, là, mais moi, je dirais 95% que c'est le cas, là.
Parce qu'il y a eu des tests, quand même, qui ont été faits, des tests de sang.
Oui, mais on n'a pas eu le résultat. Oui, il y a eu des résultats. On n'a pas eu officiellement les résultats. On a eu les résultats de l'association
oui.
de boxe, là, mais
oui.
comme on a tout de suite critiqué beaucoup cette association-là pour d'autres raisons, donc...
On l'a démonisé, donc on n'a plus
le
droit de nommer...
Mais le test ultime, c'est maintenant, parce que maintenant, il y a un test de frottis buccal qui permet de savoir si une personne qui veut être dans la catégorie féminine, puis là, le test buccal permet de vérifier, pour dire simplement, un homme va avoir un Y, là, au niveau, sur le Y, il va y avoir un gène, ce gène-là, SRI, qui va, c'est lui qui va déclencher le développement reproductif mâle. Si on n'a pas le gène, et ça, c'est le gène qui est facilement détectable par le frottis buccal,
okay.
Ben, on est dans la catégorie féminine parce qu'on n'a pas eu le développement mâle. Et l'idée des l'éligibilité des Jeux olympiques, c'est justement de ne pas avoir de traces de ce développement mâle, donc ce gène-là n'est pas là. Il y a des cas spéciaux, et les cas spéciaux, par exemple, quelqu'un qui contesterait son frottis, ben, on pourrait examiner. Que,
oui.
Ça pourrait, dans certains cas, ça se peut qu'on ait un homme qui n'a jamais eu qui n'a aucun des avantages physiologiques masculins. C'est-à-dire qu'il y a eu soit une intolérance aux hormones ou peu importe.
Héberbe,
mais essentiellement,
très petit,
c'est
très
ça.
Frère.
Alors, s'il n'y a pas eu cet avantage masculin, peut-être qu'il serait permis de compétitionner en catégorie féminine parce qu'il serait au par avec mm-hmm. les femmes. Alors donc, et bon, c'est ça. Alors, on a. Et Imane Khalif, essentiellement, c'est que sa morphologie externe à la naissance, il y avait. Pour être cru un petit peu, là, mais il y avait c'était pas un vagin, c'est un pseudo-vagin, en ce sens, c'est un sac qui n'avait aucun lien avec un oviduc ou quoi que ce soit. C'est une structure qui s'est développée là. Alors, je peux imaginer qu'un médecin qui voit ça va dire tout de suite, « Ah, ben là, on a une fille.
Mmh. »
Alors, il a été élevé en fille, et il y a toute mon empathie, ça n'a pas dû être évident, mais lorsqu'il a atteint la puberté, ses organes extérieurs, externes, ce qui manquait, c'était une enzyme pendant son développement intra-utérin qui aurait fait que le scrotum serait sorti, puis tout ça, les testicules sont restés internes. Mais lorsqu'il va arriver à la puberté, c'est-à-dire vers l'âge de 10-12 ans, là, les traits masculins vont commencer à sortir. D'ailleurs, on le regarde physiquement, il y a des traits très masculins au niveau de l'ossature, au niveau des muscles, il y a des bonnes probabilités qu'il y ait des organes sexuels qui soient... De fait, de sorte qu'il s'est retrouvé dans une situation un peu paradoxale. Le test ultime, c'est maintenant, les prochains Jeux olympiques.
Ils vont les faire maintenant, ces tests-là.
Ils font les tests et Imane Khalif va protester. Alors, mais s'il est une femme, tu fais le test, ils vont découvrir tout de suite. Alors, il sait très bien quel va être le résultat, selon moi.
Mais vous parliez tantôt du XY, XX, puis on voit souvent dans l'argumentaire des gens qui sont en faveur du fait que le genre est un spectre, que là, il peut y avoir XXY, puis XYY, puis là, il y a des combinaisons de... Je connais rien en génétique, puis ces choses-là, mais est-ce qu'elle s'inscrit dans cette ambiguïté-là ou elle serait pas nécessairement juste un XX?
Absolument. Le spectre, c'est une autre chose. Mais on va parler des chromosomes facilement, là, c'est pas compliqué. Effectivement, chez l'humain, il peut y avoir toute une série, il peut y avoir des XXXXY. X0. Des fois, il y a personne qui va avoir X, mais pas de d'équivalent. Il n'y a pas eu de contribution d'un autre gamète et il survit. Alors, je vais revenir à ma définition du sexe. Ce n'est pas les chromosomes qui décident du sexe.
Ça n'a rien à voir.
Les chromosomes, c'est la formation des gamètes. Alors, donc, c'est la morphologie liée à la formation des gamètes qui est importante.
Qui est le système reproducteur de l'humain.
Absolument. Okay. Alors, parce que les chromosomes déterminent la voie développementale que l'embryon va suivre. Et cette voie développementale est décidée donc à la conception. Donc, on va avoir X, 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 Y, X, Y, Y, X, X, peu importe. Après quelques semaines, va déjà se mettre en place les organes reproducteurs, à moins que ce soit impossible à cause de la combinaison de chromosomes. Mais après ça, ben, le développement va se faire avec ce qui en suit. Mais c'est une des objections que j'ai souvent. On me parle de toute cette variabilité des chromosomes. Mais ça ne définit pas le sexe.
Mm-hmm.
Je veux dire, si le sexe était défini par XX, XY, ben, on ne pourrait pas... Parce que le sexe, c'est une réalité qui touche à peu près 1 million d'espèces.
Mm-hmm.
La reproduction sexuée, le fait qu'on a un petit spermatozoïde, un gros ovule, alors ça touche... Si on décide que le sexe est défini par les chromosomes XX, XY, mais on ne peut pas inclure les oiseaux parce qu'ils n'ont pas ce système-là.
Ah, OK.
On ne peut pas inclure les crocodiles ou les tortues parce que, eux, le sexe est déterminé par la température des œufs dans la ponte.
Ah oui,
alors,
oui.
Les œufs au centre, puisqu'ils sont entourés, vont être un peu plus chauds. Les œufs à la marge de la ponte, qui vont être souvent enterrés, vont être un peu plus frais. Alors, ils vont avoir un sexe distinct dépendant de ça.
Ah, wow.
Alors, si on accepte l'idée que le sexe est défini par les chromosomes, on vient de réduire son universalité. C'est-à-dire, ça veut dire, comment on va appeler le sexe chez les... alors, il faut...
La
définition,
ou...
oui, c'est ça. Notre définition du sexe fondée sur les gamètes, mais qui est beaucoup plus que ça parce que ça a un impact sur la morphologie, c'est la plus simple, la plus parcimonieuse. Ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de questions à se poser, il n'y a pas de grand-chose à vérifier. Et la plus universelle, la plus riche en informations, parce que ça va déclencher la partie du gamète. On a là-dedans une copie des chromosomes qui vont former le... Alors, on a la définition. À chaque fois qu'on ajoute une couche, disons qu'on dit, OK, gamète, c'est correct, là. Mm-hmm. Mais les chromosomes, par-dessus, ça, c'est une autre couche. Puis là, après, les chromosomes, on va dire, les hormones, c'est important. Mm-hmm. Non, mais la forme de morphologie, c'est important. Ah, la pilosité faciale. C'est pas binaire, là. Alors, donc, c'est important. Alors, quand on tombe, là, on tombe dans le spectre.
Mm-hmm. De l'argumentaire,
dans l'argumentaire du spectre. Puis, évidemment, l'argumentaire du spectre, c'est qu'on est essentiellement... la combinaison de toutes nos caractéristiques morphologiques qui sont plus ou moins reliées au sexe. Si vous mettez ça ensemble, on est tous différents.
Mm-hmm.
Il n'y a pas un individu qui est semblable à l'autre. Donc, on a un spectre sur un continuum où on pourrait même dire une infinité de sexes. Alors, c'est pour ça qu'on... Et si on y pense bien, là, qu'on est rendu avec une infinité de sexes sur un continuum, bien, on vient de tomber sur la définition du genre.
Mm-hmm.
Alors, donc, les socio-activistes ont déconstruit le sexe pour rendre le genre plus important. Parce qu'à un moment donné, si on est une combinaison de caractéristiques morphologiques, si tu veux savoir le sexe de la personne, c'est quoi la meilleure façon de le faire? Ben, c'est d'y demander.
Mm-hmm.
T'sais, là. Mais à chaque fois que j'ai eu ces discussions-là, j'ai même eu des discussions comme ça avec un biologiste qui, lui, il disait que c'est la variabilité c'est la biologie qui décidait du sexe, c'est toutes les caractéristiques liées au sexe qui décidaient du sexe.
Ben oui, mais la biologie, ça part
voilà.
De la base, non?
Oui, mais tu as tout à fait raison. C'est ça que j'explique. J'ai dit, regarde, ça ne définit pas le sexe, c'est des conséquences du sexe. Alors, on ne peut pas utiliser les conséquences pour définir une fondation. Alors, donc, on part de ça, de ce qui se passe à la conception. À la conception, on sait si on est mâle ou femelle. Puis, par la suite, le corps se développe, peut prendre toutes sortes de tangentes liées à la biologie, liées à l'environnement. Il y a toutes sortes de causes qui rentrent en ligne de compte. C'est effectivement complexe, mais ça part c'est pas la définition du sexe.
Vous avez eu un débat avec un collègue biologiste que vous me dites. Moi, j'ai de la misère à concevoir si on a un esprit scientifique, qu'on analyse de façon pragmatique et factuelle tout ce que vous venez de m'expliquer, comment il peut y avoir un débat et où la zone à ambiguïté pour un biologiste? Qu'est-ce qu'il comprenait pas?
C'est simple, parce qu'à un moment donné, je me suis fait traiter de transphobe.
Ben oui, c'est sûr.
Alors, donc, ça a réglé comme le débat, là, mais j'ai posé j'ai dit, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Dis-moi le nombre de sexes qu'il y a. Combien il y a de sexes? Il a jamais voulu répondre.
Ou même, concrètement, les nommer, parce que intersexe, intersexe, c'est-à-dire entre deux sexes, donc c'est pas... Mais ultimement, c'est toujours mâle-femelle. Il y a quoi à part mâle-femelle? On connaît
c'est
pas
ça.
Les...
Mais c'est ça que je lui disais. Je dis, tu travailles en biologie, tu travailles dans quel... Mais je pense qu'il était dans les plantes.
Okay. C'était déjà plus ambigu.
Là, non, pas du tout. C'est au contraire, le sexe est binaire chez les plantes.
Même chez les plantes?
Bien sûr.
Ah, ça, ben oui, c'est
bien
vrai.
Bien sûr,
c'est
on
vrai.
A une fleur avec le pistil puis les étamines.
Ben oui,
puis ça.
C'est vrai.
Il n'y a pas de... Je veux dire c'est... OK, mais ça, c'est important. C'est un point important que tu soulèves parce que souvent, faut pas oublier que les socio-activistes ont une vision très anthropocentrique du sexe. T'sais, moi, je suis mort de rire. Là. Des fois, j'explique, par exemple, « Ah, OK. » Donc, lors de la chasse à l'orignal, ça veut dire que si tu as le droit seulement de tuer un mâle, c'est-à-dire un mâle qui a un beau panache, là, tu n'es pas sûr.
Tu t'es demandé avant.
C'est ça, parce qu'il est peut-être femelle. Puis je peux te garantir que s'il était conscient qu'il était pour se faire tirer parce qu'il y a un panache...
Il s'identifierait comme une femme, c'est clair.
Là, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, votre affaire. Puis là, je faisais la même chose avec un arbre, un érable. J'ai dit, il y a des plantes qui ont un plan mâle et des plantes qui ont un plan femelle. Alors, donc, là, qu'est-ce qu'on fait, là? Comment je vais expliquer ça à des enfants de cinquième année, sixième année, la biologie, s'il n'y a pas deux sexes, alors qu'en nature, c'est juste ce qu'il y a? Mm-hmm. Alors, ça, il faut comprendre que c'est encore ici, on déconstruit le sexe
mm-hmm.
Dans un contexte, si on veut, sociologique. Puis, on défend ça de façon malhonnête. C'est-à-dire qu'on ostracise tout le monde qui dit le contraire.
Oui, oui.
Alors, c'est malheureux, mais c'est comme ça.
Comme vous l'avez vécu avant qu'on commence, puis j'aimerais ça vous en parler un peu, parce que, bon, vous disiez qu'à votre université, là, où là, vous avez été invité en octobre dernier à participer à un événement qui défendait le sexe binaire. J'aimerais ça que vous parliez un peu de ça, parce que c'est un sujet que j'ai abordé souvent ici, la liberté universitaire. J'ai reçu Patrick Provost deux fois à mon micro, puis on a suivi son dossier parce que, je veux dire, c'était important, les enjeux que ça représentait pour la liberté universitaire. Là, vous dites que vous êtes ostracisé, traité de transphobe dès que vous avez le discours que vous tenez à mon micro en ce moment. Pouvez-vous nous parler de ce que vous avez vécu dans le cadre de cet événement-là qui était organisé à l'université?
Oui, alors c'est pas encore terminé. Alors donc, je me garde une petite gêne, mais il reste que j'ai été invité pour donner un séminaire sur le sexe binaire et on a invité également un collègue de l'Université Carleton à Ottawa qui lui s'oppose à l'idée du sexe binaire. Très bien. Alors donc, on n'a pas voulu faire un débat. On s'est dit, on va présenter les deux points de vue. Alors, j'étais supposé présenter mon séminaire le 20 octobre. Lui était supposé présenter son séminaire le 6 octobre. On était supposé... j'allais écouter son séminaire, puis on... Bref, il y avait un simili-débat qui était fait. Alors donc, j'ai accepté tout de suite, parce que moi, je veux parler de cette réalité-là. Puis je me suis dit, tiens, c'est un endroit sécuritaire, on va parler avec des biologistes, ça va être heureux. Mais non, ça n'a pas été ça. Une fois que ça a été annoncé, tout de suite, il y a eu des réactions négatives au fait que j'étais pour discuter du sexe binaire. Alors donc...
Les réactions qui sont venues tout d'abord de où?
Ben, j'ai reçu, moi, une copie d'un courriel, parce qu'on m'a demandé de réagir, c'est-tu vrai, là, à savoir que la binarité du sexe, c'est quelque chose qui n'existe plus, c'est plus approuvé scientifiquement, c'est réactionnaire, c'est en fait tout ce qu'on peut imaginer, qu'essentiellement, c'est anti-trans. Donc, et M. Chapelot est une personne qui est transphobe parce qu'essentiellement, a fait de la promotion d'idées qui sont contre le principe. Alors que je n'ai jamais fait ça de ma vie, en fait, à chaque fois que j'ai fait une présentation, j'ai toujours dit que ça n'avait aucun rapport avec les personnes trans, ça avait rapport avec l'activisme qui les entoure et le socioactivisme qui était associé à ça. Alors donc, on a ajouté également dans la lettre, que c'était une lettre de l'Association étudiante en sciences, un paradoxe parce que cette association-là, alors que j'étais un prof actif, m'avait nommé comme professeur de l'année en sciences deux fois, 2016-2018. Alors là, j'étais...
Vous n'étiez plus la saveur du mois.
J'étais le diable.
Oui.
Alors donc, bref, on a ajouté également, j'étais pas seulement le transphobe, on m'a associé avec le racisme, avec l'islamophobie. On m'a dit que ma présence ferait en sorte que le campus ne serait pas un endroit sécuritaire.
Alors, votre présence était menaçante.
C'est ça.
Comme alors, Jean-François donc, Caron aussi qui a vécu ça aussi. Beaucoup de profs d'université.
Là, mais
sa présence était menaçante.
C'est ça. Alors, alors la réponse du département de biologie, j'ai reçu un courriel me disant que les séminaires étaient remis à une date ultérieure parce que ça avait créé une commotion dans la communauté négative liée en partie, ce que j'ai su par d'autres personnes par la suite, liée en partie au fait que j'étais pour parler de sexe binaire.
Mais c'était particulièrement la communauté, pas autant que les étudiants.
Communauté, c'est le terme que le directeur a dit.
Okay.
Alors donc, ça voulait dire que j'ai su par la suite qu'il y avait eu des pressions d'étudiants dans les laboratoires disant que ça s'est communiqué quand même. Là, il y a eu une... peu importe tout ça, l'idée, c'est que le séminaire a été remis. Alors qu'il y avait là une belle opportunité, à mon avis, d'expliquer à tout le monde qu'est-ce que c'était la liberté universitaire, mm-hmm. puis en particulier à la personne qui avait écrit la lettre, qu'est-ce que c'est le respect, parce qu'on ne traite pas les gens comme ça. Moi, j'ai jamais traité on n'accuse pas sans preuve, on n'accuse pas sans... Alors donc...
De transphobie, c'est ça, vous le dites.
Ben oui, je me suis fait traiter toutes sortes de choses uh-huh.
Qui sortaient de nulle part,
sans me donner la chance de protester. L'autre mmh. aspect de cette situation-là qui m'a un peu indisposé, ben, qui est un peu fatigant, c'est que l'organisateur des séminaires a décidé d'amener ça au département, en conseil départemental, et ça se rencontre une fois par mois. Ce sont tous les profs de bio, mais aussi du personnel et tout ça. Les associations étudiantes sont invitées. Et il y a eu des... pour dire, ben là, on devrait avoir le séminaire, là. On devrait parler de biologie dans le département de biologie. Mm-hmm. Puis à sa surprise, j'imagine, plusieurs se sont offusqués au fait que je viendrais discuter de sexe binaire.
Je ne peux pas concevoir qu'on étudie en biologie et qu'on s'offusque de ça.
L'idée, c'est que ces personnes-là ont perdu leur vision de la liberté universitaire et leur volonté d'inclusion surpasse tout. Ils ont perdu leur repère scientifique pour ce sujet-là. Ça ne les empêche mm-hmm. pas d'être des scientifiques qualifiés. Là,
oui, pour d'autres choses.
Pour d'autres choses, mais...
Il n'y a pas un enjeu idéologique.
Parce que probablement que la plupart d'entre eux travaillent avec des espèces à reproduction sexuée qui sont binaires. Ils n'ont jamais mm-hmm. considéré qu'il y avait autre chose que deux sexes.
Oui, c'est ça. Si on parle d'un chevreuil, on ne va pas avoir ce débat-là.
Pas du tout.
C'est juste dans les humains. Là.
C'est ça. Alors, c'est comme si pour l'humain, il est préférable d'ignorer ça. En mm-hmm. fait, c'est d'ignorer ça. Alors donc, le séminaire donc a été remis. Il y a eu trois...
Il n'y a pas de date pour l'instant.
Non, il y a eu trois conseils départementaux depuis. Ouais. La dernière fois que j'ai posé... Parce que j'avais mis, j'ai dit d'accord. Je ne crois pas beaucoup à l'hypothèse qu'on veut remettre le séminaire. Parce que je dis, la communauté ne va pas changer d'avis en trois mois. Là. Alors donc, on va mettre ça dans un autre format. Enfin, après quelques semaines, j'ai dit, bon, c'est pas sérieux, là. Alors, donc, j'ai un peu indiqué ma... Puis, j'ai dit que j'étais un petit peu tanné, là. En fait, j'ai trouvé que c'était un peu insultant qu'on me traite comme ceci, alors que j'ai rien fait. Tout ce que je voulais parler, c'est de biologie avec des biologistes dans le cadre d'un séminaire de biologie. Mm-hmm. Alors, donc, on peut même pas discuter de ça. Ben, j'ai dit, l'Université d'Ottawa a encore de gros problèmes à gérer la liberté universitaire. Alors, mm-hmm. donc, c'était un peu ma conclusion. J'ai laissé la porte ouverte un petit peu s'ils veulent organiser quelque chose, mais ce que j'ai entendu parler, je pense que j'enlève une épine dans le pied à tout le monde. Là. C'est un peu triste. On n'est pas rendu dans un... Les universités ne sont pas prêtes à affronter les transactivistes ou les socioactivistes pour...
Mais pourtant, c'est ce qui c'est étrange parce que, bon, vous dites l'Université d'Ottawa, mais c'est pas propre à l'Université d'Ottawa. Ça semble assez généralisé dans les universités.
J'ai pas entendu beaucoup de débats sur le sexe binaire dans des universités.
Il y en a pas plus à l'UQAM,
à
ma connaissance.
Et, par exemple, si on m'invitait à le faire dans une université québécoise, je dirais oui tout de suite. Mm-hmm. On participait à un débat là-dessus, j'aurais mm-hmm. aucun problème.
Mais comment se fait-il, vous n'avez sûrement pas la réponse, mais je pense que la question est un peu rhétorique, mais que ce soit assez nouveau comme concept, puis ce soit rentré dans les écoles sans discussion publique, mais quand on veut avoir la discussion, on n'est pas prêt, vous avez dit, on n'est pas prêt à avoir la discussion, mais on ne pouvait pas adhérer à ça tant qu'on n'avait pas la discussion. Donc, il y a comme pour moi une fraude intellectuelle du fait que c'est déjà omniprésent, mais qu'on ne s'est jamais offert dans la société, une communication, un débat.
Absolument. On a tel débat. On a, en fait, on a tellement peu informé la population de ce que c'était. Et nos élites politiques ont eu tellement peur de ne pas avoir l'air inclusif que tout ça a passé. Mm-hmm. Et on va en souffrir les contre-coups de tout ça pendant très longtemps. Mm-hmm. Pour ce qui est de l'éducation, l'influence des socio-activistes a été particulièrement efficace à tous les points de vue.
Ils ont été très bien subventionnés par le gouvernement libéral
toujours.
Aussi.
Oui, sûrement. Et je blâme aussi les fonctionnaires qui étaient associés avec l'élaboration du programme de ne mm-hmm. pas avoir vu, de ne pas avoir vérifié les données à l'intérieur du programme, de ne pas faire de contrôle sur ce qui se passe dans les salles de classe. Mm-hmm. Je pense qu'en partie, j'ai assez confiance au niveau des enseignants qui ne vont pas être bernés par un programme qui est... mais jusqu'à quel point ils vont devenir... ils vont céder Moi, je ne pourrais pas céder.
C'est des outils de propagande comme la licorne du genre dont vous parliez ou Bonjour Sam, je ne sais pas si vous êtes familier.
Oui, j'entends. Allô Sam, je pense. Oui,
moi, je pense c'est Bonjour Sam.
Bonjour Sam, OK, peut-être.
Qui est comme non-genré. C'est un outil pédagogique qui est utilisé par les profs qui n'ont pas reçu la formation pour donner le CCQ, qui finalement promeut l'idéologie du genre. Ouais. Donc là, ça explique que le genre est entièrement autodéterminé, que finalement, c'est pas parce que t'es né avec un pénis que t'es un petit garçon. Ça, c'est vraiment, c'est visé pour le primaire. Et c'est là où là, ces outils pédagogiques-là qui rendent, je pense qu'un prof va être pas être mal intentionné, mais si c'est ça qu'il y a dans ses mains, il va enseigner ça. Moi, c'est là que j'ai un petit problème avec les outils de propagande qu'on leur met dans les mains.
Mais c'est tellement de travail. La licorne du genre, moi, je me suis amusé. J'ai écrit un document sur la licorne du genre qui s'appelle « Les 12 stars de la licorne du genre
okay. ».
C'est un outil de propagande pur et simple. C'est effrayant.
Ça a été fait par le ministère de l'Éducation?
Non. C'est un outil américain.
Ah oui, OK.
Je pense que ça a été fait en 2014.
OK.
Dans le but de décloisonner, de rejeter tout ce qui est binaire en société. Qu'il y ait un débat sur les relations sociales entre les individus, entre les hommes et les femmes. Moi, je reconnais parfaitement que le patriarcat existe, puis que je reconnais qu'il y a des problématiques au niveau de l'orientation sexuelle, puis de tout ça. C'est un débat social qui est important, qui doit avoir lieu. Ce que les socio-activistes ont fait, c'est qu'ils ont transporté, ils ont déconstruit le sexe pour ça. C'est là qu'est le problème.
Oui.
Alors donc, on travaille surtout dans les écoles maintenant. Moi, la première chose que je regarde dans un document, ou la première chose que je demande à quelqu'un pour avoir une idée de ce qu'il pense, toujours, c'est combien il y a de sexe, à ton avis.
Je commence toujours une discussion comme ça.
Toujours. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on peut discuter, mais je dis que toi, tu considères que combien de sexe. Alors, j'ai pas rencontré beaucoup de monde qui considérait qu'il y en avait deux.
Non.
Au niveau académique, au niveau de... toutes les socio-activistes... On fait un bon travail là-dessus. Les gens...
Bon quoi?
Ben, regardez, la licorne du genre, on est rendu qu'on parle de sexe assigné à la naissance. On ne parle plus de sexe. D'ailleurs, quand on va voir les instructions de la licorne du genre qui proviennent de ceux qui ont fait le travail, on dit qu'il ne faut jamais dire le mot sexe. Ah, parce que le mot sexe s'inscrit dans la transphobie.
OK, bon.
Alors donc, il faut parler de sexe assigné à la naissance. Et pourquoi on met sexe assigné à la naissance? C'est parce que le sexe assigné à la naissance, c'est une construction sociale.
Ah oui, OK.
Le médecin qui a décidé. Donc, on ne parle pas de biologie, là.
Mm-hmm.
Alors, donc, il y a soit mâle, femelle ou intersexe. Ça va être ça qu'on va voir. Mm-hmm. Ou parfois, on va dire, j'ai vu, c'est-tu dans Sam, une infinité de possibilités. J'ai vu...
Ouais, je me rappelle plus, mais on
alors,
l'a vu.
Alors, dans un document, je vais voir la définition du sexe. Il n'y a pas un document du gouvernement qui dit que le sexe est binaire.
Non, c'est sûr, c'est rendu proscrit, on ne dit pas ça,
alors,
c'est transphobe.
Le travail est énorme à faire.
Mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils ont travaillé dans l'ombre, puis là, soudainement, avec 2020, avec Black Lives Matter, comme vous parliez tantôt, puis de Floyd, là, ça nous est tombé dessus, puis il était trop tard. Puis en fait, je pense que je suis surprise que vous dites, quand vous parlez avec des gens qui vous répondent majoritairement que le sexe n'est pas binaire, mon feeling, moi, c'est quand j'en parle à des gens... Dans le privé, les gens sont très à l'aise de dire « ben non, ça n'a pas de bon sens
oui. ».
Mais c'est tellement rendu dangereux de le dire publiquement que plus personne n'ose vraiment s'afficher comme parce que c'est pas inclusif, on ne veut pas avoir l'air pas tolérant. Intolérant, moi, c'est horrible, mais il n'y a personne. Personne, moi, je dis tout le temps, tout le monde est pour la paix dans le monde. C'est pas ça la question ici. Là. Mm-hmm. Tout le monde est pour qu'une personne qui n'est pas bien dans sa peau puisse se sentir mieux. Je connais personne qui s'oppose à cette idée-là. Mais là, c'est pas ça la question. C'est comme si finalement on a mis le spotlight, excusez l'anglicisme, la lumière là-dessus, en voyant pas que ben, la question, c'est qu'on mêle toute une génération. J'ai reçu très récemment une jeune fille qui était probablement TPL. Mm-hmm. À 13 ans, s'est fait diagnostiquer. Ben, elle disait qu'elle voulait changer de sexe parce qu'elle avait trouvé la solution dans « si j'étais un gars, ma vie irait mieux ». Puis elle a transitionné, pris des hormones, le bloqueur de puberté, la mastectomie. Et à 18 ans, elle s'est rendue compte qu'elle avait fait une erreur.
Mm.
Et là, ça fait 3 ans qu'elle essaie de revenir en arrière, mais là, il n'y a plus aucun support, aucune aide. Mm-hmm. Finalement, elle a été diagnostiquée TPL. Puis ça explique tout. T'sais, je veux dire, n'importe quel psychologue, s'il n'avait pas été endoctriné à une idéologie, aurait pris le temps de s'asseoir puis comprendre qu'elle avait des traumatismes dans son enfance assez majeurs, ça me paraît évident. Mm-hmm. Puis juste comme accueillir ce qu'elle présente et accompagner cet enfant-là qui a besoin, qui traverse une passe extrêmement difficile qui est l'adolescence. Moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est de voir comment des jeunes sont en train de payer le gros prix pour cette idéologie-là au nom de la tolérance. On fait du mal aux jeunes.
Au nom de la tolérance. Et ce qui se produit dans les écoles en ce moment, c'est qu'on protège l'idéologie.
Mm-hmm. Bien plus que les enfants.
Oui. L'école, en tant que telle, permet, par exemple, jusqu'à un certain point, de ne pas informer les parents ou d'aller de prioriser la volonté de l'enfant et de lui donner un environnement qui va... Alors que lui donner cet environnement-là, c'est peut-être une erreur, mm-hmm. dans ce sens qu'il faut que l'enfant, qu'on ait une approche attentive, puis qu'on le laisse cheminer... puis qu'on arrête de considérer, par exemple, que la puberté, c'est une maladie, mm-hmm. que la puberté, c'est une phase de la vie qui est perturbante, mais que la plupart des jeunes vont se réconcilier avec leur sexe à la fin, si jamais il y a des tendances vers une transition. Alors, l'école n'a pas ni l'expertise, ni le devoir moral d'affirmer le genre d'un enfant, c'est horrible. Ils sortent de l'école après, eux autres, ils sont... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce genre de démarche-là? Pour moi, c'est qu'on n'est plus... L'école n'est plus pour l'enfant, l'école est là pour protéger l'idéologie. Mm-hmm. Une idéologie qui est en manque de personnes, qui est en manque de personnes qui sont malheureux avec leur sexe. Mm-hmm. Je regardais hier, j'ai amené le livre ici, mais je regardais, il y a un livre qui est donné en secondaire 1, donc 12-13 ans, mm-hmm. Dans lequel il y a une page sur l'identité et on dit, ben là, ton sexe était assigné à la naissance, c'est tout, c'est fini pour le sexe. Après, on parle de ton genre. Ben là, ton genre, là, c'est maintenant, faut que tu regardes si tu te sens plus comme une fille, si tu te sens plus comme un garçon. Peut-être que tu te sens pas du tout ni comme une fille ou un garçon, peut-être que tu te sens comme les deux. Mmh. Alors, c'est le temps maintenant de voir, là, ils disent ça à 12 ans.
T'es déjà confus commence... par rapport oui, à
moi,
toute
je trouve
ta vie.
Ça épouvantable qu'on accepte cette réalité-là. C'est sûr, je trouve ça épouvantable. Ce que je trouve encore pire, c'est que le sexe en tant que tel est une réalité binaire qui a un impact sur tous les comportements, sur la personnalité. C'est renommé, c'est clair, c'est précis. Vous aviez Samuel Vessière, c'était magnifique ce qu'il disait, parce qu'on pouvait voir là, que essentiellement toute cette dynamique là, de la jeunesse. Mais on ignore ça complètement parce qu'on considère qu'une fois né, c'est la société qui va décider si tu es un gars ou une fille. Ça n'a aucun bon sens. Je ne comprends pas comment on a pu accepter ça dans les écoles.
Non, puis que ce soit rendu à un point tel que vous êtes cancellé d'une... En plus, le débat ne voulait pas avoir lieu. Juste ça, tu sais, ça aurait été fascinant.
On ne
peut
pas parler de biologie dans un département de biologie.
C'est ça, ça ne va pas du tout. Il y a un problème.
Oui.
Vous êtes penché sur le programme de la CCQ, je vous avais vu en conférence en parler. Puis est-ce que vous auriez, pour des parents qui écoutent... C'est une grosse question, là, mais... Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous, comme parents? C'est la question. On est tellement démunis.
Oui, c'est une bonne question. J'aimerais ça avoir... Moi, personnellement, je dirais que le programme aurait besoin d'une refonte totale.
Ça, il faut en parler. Les gens prennent conscience.
On peut en parler, mais il faut qu'il y ait des gens qui nous écoutent.
Ouais.
Il n'y a personne qui nous écoute en ce moment. J'ai essayé, par exemple, j'ai fait 5 vidéos qui expliquent le sexe binaire. Alors, la conférence que j'ai faite à PDF Québec, mon objectif là-dedans était évidemment de faire une conférence, mais c'était également d'avoir des documents audiovisuels qui expliquent c'est quoi le sexe binaire, qui expliquent les problématiques qu'il y a et tout ça. Alors, je pense qu'on est dans une phase en ce moment où il faut éduquer les parents sur exactement ce qui se passe, puis mettre beaucoup d'efforts là-dessus, parce que moi, je suis en faveur de l'éducation sexuelle à l'école.
Pourquoi êtes-vous en faveur de l'éducation sexuelle?
Parce qu'il y a des... Je suis convaincu... moi, j'ai peut-être eu... Ah non! En fait, j'aurais eu besoin d'éducation sexuelle à l'école.
Quand ça n'existait pas dans votre temps?
Ben, il y avait... mes parents étaient très religieux. Mm. Et j'ai pas eu aucune éducation sexuelle à la maison.
Alors, c'est l'autre extrême.
Donc, oui, alors je soupçonne que dans certaines communautés, ça n'a pas parlé beaucoup de sexe à la maison. Alors, donc, je pense qu'il y a un endroit idéal où là, on a des jeunes pendant plusieurs heures au même endroit. On a la chance de passer un message qui peut les aider significativement dans leur développement, mm-hmm. pour pouvoir mettre des cases un peu partout sur certaines choses. Donc, évidemment, ça doit se faire graduellement selon l'approche la plus optimale, là, adaptée à l'âge et tout, ce qui n'est pas le cas actuellement. Là. Mais je pense que c'est important d'avoir ça. Je pense mm-hmm. que c'est essentiel, surtout dans une société qui est de plus en plus diversifiée, qu'on s'entende mm-hmm. là-dessus.
Rapport à la biologie, par rapport aux hormones, par exemple, ou expliquer aux femmes qu'elles vont, mes petites filles qui vont à un moment donné avoir des menstruations, ou je pense que c'est ça qui était dans mon temps, en tout cas, mm-hmm. c'était ça qu'on nous enseignait, puis c'était fait au bon moment, en cinquième ou en sixième année, on commençait à parler du développement des seins, de ces choses-là, ton corps va changer, mais il n'y avait pas vraiment d'affaires de outre mesure. Puis, je me rappelle, c'est la prévention. De comprendre les bons et les mauvais touchés. Ouais. Tes zones intimes, il n'y a personne qui aura dû toucher. C'est la base. Ouais. Comme ça, tu peux dénoncer s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Maintenant, c'est qu'on parle de sexualité positive.
Ouais.
Donc là, on est vraiment dans la confusion pour un enfant de qu'est-ce qui peut être agréable, mais que ça peut venir quand même d'un adulte, puis il n'y a pas d'affaire à faire ça. Là, c'est, je trouve qu'on s'en va dans un... Mais à bien des niveaux, je considère que l'école est en train d'aller là où elle ne devrait pas aller.
Oui, oui. Puis en plus de ça, aujourd'hui, il y a l'Internet, là, puis la pornographie.
Oui, la pornographie, parce que c'est à l'âge de 8 ans maintenant que les enfants ont accès à ça.
C'est important de guider un peu les enfants là-dedans. Ils ne vont pas demander à leurs parents. Ça m'étonnerait beaucoup pour ce chose. Alors, l'école a un rôle important à le faire. Je ne suis pas un spécialiste de l'éducation à la sexualité, mais ce que je peux dire, c'est que au minimum, ils devraient expliquer aux jeunes qu'il y a deux sexes.
Oui.
Que leur sexe, c'est leur réalité, qu'il y a des problématiques, peut y avoir, être associé avec qui vont percevoir des problématiques à la puberté, que c'est pas grave, qu'en fait, qu'ils devraient être fiers d'être un garçon ou une fille, puis ils devraient comprendre qu'ils peuvent se développer autant socialement que dans un contexte positif. Et pour le reste, les valeurs, ça dépend des gens rendus à un certain âge. Là. Mm-hmm. Mais il reste qu'on a cette responsabilité à l'école de faire ça au départ. Mais en ce moment, on ne le fait pas.
Non.
Alors, donc, on ne le fait pas du tout. Alors, si là, je repense à la première question, à savoir qu'est-ce que je ferais maintenant, moi, je serais sur un conseil d'établissement. Je l'ai été sur un conseil d'établissement d'une école.
Okay.
Parce que il y avait des choses qui me fatiguaient à mon école.
Comme parent.
Impliquez-vous. Puis parler fort.
Ça vient avec la crainte d'être ostracisé.
C'est sûr.
Puis de se faire aussi que mon enfant se fasse ostraciser, comme moi, je suis la maman fatigante.
L'idée, c'est de... OK, moi, je dis toujours aux gens, c'est préférable, comme je parle de... Je pense à mon collègue à l'Université d'Ottawa qui a organisé le séminaire, ce que je lui disais, je dis, c'est important que tu ne sois pas tout seul là-dedans.
Mm-hmm.
En théorie, tu devrais avoir l'université qui est avec toi.
En théorie.
Mais ça, tu ne l'auras pas. En théorie, tu devrais avoir tes collègues avec toi. Ben, tu vas peut-être en avoir quelques-uns.
Mm-hmm.
Mais fais pas ça tout seul. C'est très facile d'ostraciser une personne.
Ouais.
C'est beaucoup plus difficile d'ostraciser un groupe de 100 parents ou de 200 parents. Alors, c'est le nombre mm-hmm. qui va faire que ça va fonctionner.
Mm-hmm.
La deuxième chose qui peut peut-être faire changer des choses, c'est poursuites judiciaires.
Vous croyez encore que des poursuites judiciaires peuvent...
Je pense que là, en ce moment, c'est pas encore le cas, mais je trouve que aux États-Unis, évidemment, ils ont plus l'habitude et on a discuté, mais il y avait à un moment donné 500 poursuites partout dans les États. Il y avait un endroit là, qui documentait toutes les opérations transphobes. Là. Mais en même temps, c'était pas des opérations transphobes. De ma perspective, c'était des gens qui réagissaient par rapport à l'éducation, par rapport à d'autres aspects aussi. C'est la meilleure façon de faire connaître un problème,
mm-hmm.
mais en même temps, si on parle au monde politique, au monde judiciaire, si on parle leur langage, peut-être que, tu sais, je veux dire, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais les poursuites, c'est aussi une façon
de se faire entendre.
De faire bouger les choses.
Oui, je comprends.
Mais c'est plus compliqué. Mais je pense que l'idée de se regrouper. Mm-hmm. Puis il y a des groupes qui se font un peu à gauche et à droite.
Ouais.
J'étais commission parlementaire hier et il y a eu trois groupes qui ont demandé qu'on reconnaisse, parce que dans la Constitution, une des principes fondateurs, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Mm-hmm. Alors, ces groupes-là ont dit, bon, c'est parfait, c'est ça qu'il faut, il faut se battre pour ça, mais il faut falloir que vous définissiez c'est quoi une femme, c'est quoi un homme, parce qu'en ce moment, dans le Code civil, ça ne marche pas.
Mm-hmm.
Je dis, parce que les droits des femmes sont fondés sur le sexe, ne
mm-hmm.
sont pas fondés sur autre chose, l'idéologie du genre. Il faut qu'il y ait un changement. Alors, puis on est en commission parlementaire, mm-hmm. puis c'est entendu. Malheureusement, en toute probabilité, je suis prêt à parier que ça ne sera pas dans les médias.
Non, ça, c'est pas tellement surprenant. C'est pour ça qu'il y a les médias alternatifs pour parler de ces choses-là maintenant.
Oui, c'est toujours.
Puis ils perdent des plumes aussi, parce que je pense que le peuple n'est pas représenté non plus dans ce qui... Ça finit par être sensiblement toujours les mêmes sujets qui sont abordés et traités toujours de la même façon.
Oui.
Si on veut de la diversité, au moins, il y a Internet. J'aimerais ça, juste avant de terminer, qu'on parle un petit peu de la construction sociale, parce que vous avez... On a parlé beaucoup de biologie, après tout, vous êtes biologiste, mais on nous parle souvent que, dans l'idéologie de genre, que c'est une construction sociale.
Oui.
Donc, le sexe est assigné à la naissance, et après, tout le reste, ça découle du fait que c'est la société qui décide comment un gars puis une femme, un gars puis une fille se comportent.
Mm-hmm.
Ils ont fait des tests sur les chimpanzés, puis ils ont vu que les petits mâles allaient vers les blocs de construction, puis les petites femelles allaient vers les poupées. Oui. Pourtant, ils ne sont pas dans une société qui leur a mis cette pression-là. Donc, je serais curieuse de savoir jusqu'à quel point c'est démontré scientifiquement que la construction sociale peut jouer un rôle sur comment on s'identifie dans notre sexe.
Oui, en fait, il y a... Ben, en fait, c'est une composante. Hein. On parle de... Il y a tout l'aspect social, puis il y a aussi l'aspect... que j'appelle un peu inné, c'est-à-dire qu'on est, en tant que garçon, il y a certains comportements. Puis ça a été prouvé dans le sens, en faisant des études de jumeaux, par exemple, puis qui étaient dans différents contextes sociaux. Alors, on a pu déterminer, par exemple, ça c'est un chiffre, grosso modo, là, qu'au niveau des traits de personnalité, caractère, c'est entre 30 et 40 % ou 50 % de la variabilité qu'on observe dans une population qui est héréditaire. C'est-à-dire qui est fondée sur l'hérédité. Encore, j'insiste sur le... Je ne parle pas d'une personne, je parle d'une population. Alors donc, il y a un fondement génétique à tout ceci. On identifie ce fondement-là, mais encore là, tous ces domaines-là de la recherche en psychologie, quand vous parlez de psychologie sociale et de psychologie évolutive, mais c'est des domaines qui sont en conflit en ce moment. Parce que la psychologie sociale insiste, puis il y a beaucoup de Bon, je ne devrais pas rentrer là-dedans, mais il y a beaucoup de... Quand on est en psychologie évolutive, évolutive veut dire qu'on se préoccupe de l'histoire, qu'on se préoccupe de l'évolution, qu'on regarde les chimpanzés, qu'on regarde tout ça, puis on essaie d'interpréter une partie de nos comportements à partir de ceux-là, ou on regarde ces comportements-là chez les chimpanzés à leur juste valeur. On peut voir notre évolution par rapport à ce groupe-là, puisqu'on est étroitement apparenté. Ah, c'est fascinant. Mais la psychologie sociale, dans son extrême, c'est de dire que non, à la naissance, on part à zéro. Tout le monde peut avoir adopté les comportements de filles ou de garçons. C'est l'espèce de la table rase.
Ouais.
Tabula rasa. Et ce concept-là, c'est à l'autre extrême. Alors donc, en ce moment, tabula rasa, c'est ce qui est prôné par l'idéologie du genre. En ce sens que le sexe, c'est anatomique. Une fois que tu es né, là, ta socialisation commence une fois que tu es... et va faire en sorte que ça va développer tous tes traits de caractère. Ce qui, quand on se met à fouiller un peu, à creuser un peu là-dedans, ça ne tient pas la route, pour plusieurs raisons. On est une mixture. Mais en ce moment, on ignore complètement la part du sexe.
Oui, oui.
Et c'est ça qui est un problème.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'on dit à l'enfant, t'es peut-être né, le médecin a dit que t'étais mâle, mais en fait, t'es peut-être une fille.
C'est ça.
Alors, il y a une disconnect entre le corps et le cerveau. Et ce disconnect-là, c'est là où j'ai un gros, gros problème, parce que ça n'existe pas. Toutes nos cellules de notre corps sont liées. On a dans chacune des cellules de notre corps une marque de notre sexe.
Mm.
Alors donc, un petit garçon qui naît... un garçon naît mâle, naît garçon avec des traits qui lui sont propres.
Mm-hmm.
Déjà. Mm-hmm. Sans qu'il y ait de socialisation.
Ouais, ouais.
Alors, donc, ça, c'est important. Mais on ne peut pas vraiment dire ça maintenant. Là. En ce moment, là, c'est... Et c'est le problème, c'est qu'on avance des choses qui sont fondées sur la réalité. Mais moi, je me suis fait dire que mon niveau de connaissance de la biologie était celui de 8e année.
Archaïque, OK, c'est ouais. ça. Vous n'avez pas suivi, là. Vous...
Ben, c'est ça. Moi, je suis... on est réactionnaire également.
Oui.
On m'accuse d'avoir un fondement religieux, comme les Américains, alors que... Je n'ai aucune fibre religieuse. Alors donc.
Clairement, vous n'êtes pas là. Mais non. C'est juste, c'est facile de mettre des étiquettes pour faire les débats.
C'est ça.
Puis c'est ce que vous avez subi. J'avais une dernière question, puis je l'ai glissée, c'était par rapport à. Je voulais vous demander, vous êtes retraité.
Oui.
Auriez-vous pris la parole comme vous le faites si vous étiez encore à l'emploi?
C'est un bon point. C'est beaucoup plus facile pour moi.
Mm-hmm.
Et je me sens en responsabilité de le faire aussi.
Mm-hmm.
Parce qu'ils ne peuvent pas. J'ai vu dans des réseaux sociaux, on ne peut pas y faire perdre sa job, lui, il est déjà en retraite.
Mm-hmm.
Alors,
mm-hmm.
Donc, c'est pas caché, là, ils disent, c'est leur stratégie.
Ouais.
Alors, donc, est-ce que je l'aurais fait? Ben, j'ai toujours enseigné, pour moi, à l'Université d'Ottawa, j'étais responsable d'enseigner le cours d'entrée à l'université, puis en français et en anglais, parce que j'aime enseigner les deux, puis ça me faisait 1600 étudiants.
Wow.
Alors, dans plusieurs sections, tu sais, puis quand j'expliquais la science, comme exemple de non-science, je prenais la religion.
Hmm.
Alors, je me suis fait aussi ramasser avec ça, là, parce qu'un instant, là, il y a une vérité religieuse, il y a une vérité scientifique. Très bien, je veux bien fonctionner avec ça, mais ta vérité religieuse n'a aucun impact sur la vérité scientifique. Ah là, non. Là, on me citait la Bible, on me citait le Coran. Mm. Si tu veux continuer en science, il va falloir que tu... Alors, j'ai eu des problèmes avec les ressources humaines.
Ah oui?
Oui, il y a eu des plaintes disant que je dénigrais les religions puis que je dénigrais dans mon cours de science.
C'est pas la première fois que vous touchez à des sujets tabous.
C'est ça. J'ai pas peur de le faire. Est-ce que je l'aurais fait? Je pense que oui. Oui. J'ai un sentiment d'injustice qui est très fort.
Mm-hmm.
Un sentiment de justice qui est très fort. Et je réagis beaucoup à l'injustice. Puis en même
vous
temps,
êtes réactionnaire, donc.
Oui, c'est ça. Mais aussi, il y a peut-être un petit peu de naïveté aussi. Des fois, je dis, ah oui, vraiment, on s'embarque là-dedans.
Mm-hmm.
Alors, donc... Alors, c'est pas... Mais j'aime beaucoup ce que je fais,
mm-hmm.
parce que je sens que ça peut être utile.
Mm-hmm. Ben, votre voix est importante, d'autant plus qu'il n'y en a pas beaucoup, des scientifiques qui osent se prononcer comme vous le faites, puis défendre un principe que j'aurais jamais cru... qu'on serait là à parler de on a fait une heure et quart à parler de ce que c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, mais je pense que c'est important que ça existe dans la sphère publique. Je suis pas mal convaincue que ceux qui vont nous écouter sont déjà vendus à ce que vous dites, mais je pense qu'on est rendu là, il faut en parler.
Oui, je les invite, moi, mes vidéos sur YouTube expliquent la problématique.
Donc, on le plus clair possible. François Chapelot, c'est ça?
Oui, F. Chapelot, c'est une série qui s'appelle « Le sexe est réel et binaire ». C'est en 5 épisodes. La première explique la problématique et les controverses. Le deuxième explique les intersexes. Le troisième explique le sexe n'est pas un spectre. Le quatrième, le sexe n'est pas une construction sociale. Puis après ça, je fais une analyse qui met ensemble sexe, science et société. Puis c'est à peu près c'est 20 minutes chaque. C'est pas énorme. C'est ma façon un peu de contribuer au débat autre que d'en parler avec des personnes.
Mais merci d'être venu.
Merci beaucoup pour l'invitation.
C'est un plaisir.